Là, il y a des termes qui m'ont fait réagir plus que d'autres. Ils parlent justement de cette culture. Ils ont bien dit les termes comme il faut. Cet art de vivre. Ils sont bien venus sur le phénomène, malheureusement, de mode, à travers lequel beaucoup de personnes essayent de rechercher une personnalité qui ne sont pas toujours en devoir de retrouver. On va en parler justement lors de cette conférence, on va donc développer ça. Mais le terme que j'ai le plus aimé, c'est « millefeuille ». Ça ne vous a pas interpellé quelque part, ce terme « millefeuille ». Millefeuille de différentes, composées de différentes cultures, de différents mouvements, puisque vous avez vu que ça évolue, le mouvement, que sont devenus les anciens gods, sont-ils toujours là, à votre avis? Est-ce qu'ils sont toujours là? Moi, personnellement, on m'a défini comme Bad Kev, post-néopunk, avec le côté romantisme sombre. Moi, j'avoue, j'adore ce côté romantisme sombre, vampire, victorien, tout en aimant cette fraction de cybergoth. J'en diffuse, j'apprécie tous des groupes comme Crush Shadow, Rosa Cruz, bien évidemment, Fer de Lance. C'est ça qui est bien dans ce documentaire, c'est qu'on apprend à travers les termes de Rosa Cruz, le Fer de Lance dans la France. Vous avez vu, bien évidemment, on ne vous apprend rien, et encore, ils ne sont pas partis en Angleterre pour faire le reportage, parce qu'en Angleterre, bon, vous imaginez bien que c'est culture courante, hein, y a plus rien à dire. Mais en Allemagne, il y a énormément de festivals. Si vous voulez quelque chose de qualité et vraiment vous intégrer dans ces mondes-là, ben oui, c'est l'Allemagne. Il n'y a rien en France, vous avez vu. Le pauvre Chancy a voulu mettre quelque chose en route. Bon, il s'est ramassé en espérant pour lui qu'il renaisse de ses cendres et puis qu'il évolue dans ce niveau-là. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai eu l'opportunité d'aller à Paris, d'exposer à Paris. Bon, je me suis dit, Paris quand même. Hein. Bon, nous, en tant qu'exposants, on est obligé toujours de passer à Paris. On a beau présenter un CV artistique avec des tonnes de médailles et tout ce que vous voulez, remplir les tiroirs avec ça. Mais si on ne fait pas Paris, ben malheureusement, même si Paris n'est pas la France, on ne reconnaîtra pas notre CV. Donc tout le monde, dans ce qu'il fait, est obligé de passer par Paris. Ça continue comme ça. Et moi, je me suis dit, chouette, je vais aller à Paris. Bon, ben, c'est bien, je vais leur en foutre plein la gueule. C'est ce qui s'est passé lors d'un vernissage, justement, avec Monsieur qui a composé de la musique pour l'occasion. On les a mis sur le cul, oui. Mais quand je passais dans la rue, je les mettais sur le cul aussi. Et pourquoi? Même dans des rues, ben, des quartiers... disons huppé, quand même 8e, 16e, etc., on m'a regardé des pieds à la tête. On s'est retourné sur moi. Alors que je disais, pourtant, Paris, ben non. Donc ça veut donner une idée, en fin de compte, si Paris n'ouvre pas les yeux sur cette culture, au secours la France, ben je peux... Ben oui, malheureusement. Donc on va développer... cette conférence, et moi j'aimerais bien que vous participiez, effectivement. Il faut faire des réflexions très, très pointues, comme tu l'as fait tout à l'heure, justement, au niveau de tes études, au niveau de ta mère, au niveau de ce que vous vivez, vous, comment vous le ressentez, comment ça se passe. Est-ce que vous osez franchir le pas? Parce qu'il y a ça, c'est tellement dans l'esprit des gens satanisé, ce mouvement-là, mais il y a énormément de jeunes gens en adolescence ou alors des personnes plus âgées, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'âge pour ce mouvement. On l'a en soi, c'est inné. On a du mal d'expliquer ça aux personnes. Allez expliquer aux personnes pourquoi tu es gothique. Attends, qu'est-ce qui fait la différence par rapport aux autres? Pourquoi tu es gothique? Ben, expliquer cette philosophie, cet art de vivre déjà qui est millénaire, qui ne date pas seulement des années 80. C'est sûr, il y a eu une émergence dans les années 80 par l'Angleterre, par l'Allemagne, et seulement après par la France, au niveau musical, avec tous des grands groupes, qui ont été cités, entre autres, il y en a d'autres. Mais ce n'est pas seulement au niveau de la culture musicale, c'est au niveau de la culture générale avec un grand C, au point de vue de l'architecture, au point de vue de l'histoire avec un grand H, l'histoire de l'être humain. Et comme le disait si bien donc, cette psychologue tout à l'heure, cette sociologue, et comme elle le dit, on accepte cette douleur, on accepte cette souffrance de la vie, on le sait qu'on ne pourra malheureusement pas, surtout en ce moment, remonter la pente et la vie est belle et c'est des enjoliveurs. Non, ce n'est pas un enjoliveur. Personnellement, dans mes tableaux, ça n'a jamais été des enjoliveurs. On m'a déjà fait le reproche, mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas de l'alimentaire, tu fais du surréalisme, c'est très difficile. Ça ne sera jamais des enjoliveurs. Mes tableaux plongent dans le surréalisme, c'est la branche, oui, ça te fait rire, veuve noire, mais c'est vrai. Je plonge dans le surréalisme, c'est la fibre de l'être humain, c'est l'irrationnel, c'est une qualité imprévisible de l'imaginaire. On marche tous sur ce fil ténu qui nous sépare du rationnel et de l'irrationnel. Moi, j'ai cette chance de pousser ces portes et de vous présenter sur toile ce qui finalement sont les mots de universels de l'humanité. Et ensuite, à vous de l'accepter ou pas. Alors évidemment, selon les expositions, ben, ça passe ou ça casse. Évidemment, vous êtes face à vos propres problèmes. Tout ce qui fait vibrer l'être humain, en fin de compte. Alors, au niveau pictural, au niveau musical, au niveau art principalement, c'est quelque chose, on est avec, si je puis dire. On est avec, et comme on va le dire tout à l'heure, eh bien, selon l'enfance que l'on a eue, selon les coups qu'on s'est pris dans la gueule, eh bien, ça tisse le gothique. Et finalement, ben oui, on a une façon dédramatiser les coups durs, dédramatiser la mort, de lui faire face, comme on va le voir. Souvent, on nous associe évidemment, vous aimez bien vous promener dans les cimetières. Quand je suis allée aux États-Unis, ce qui a marqué les amis qui nous ont reçus près de New York, à Hartford exactement, ce qui les a marqués, ils m'ont demandé qu'est-ce que je voulais voir aux États-Unis principalement. Les cimetières, parce que c'est là-bas, c'est une ville, un cimetière est une ville, c'est fabuleux comme c'est fait. C'est magnifique, c'est un lieu de repos et il y a de l'art funéraire. L'art funéraire est très présent, c'est ça qui est principal. Et bien sûr, les amis ont dit cimetière, hop, bon, cimetière. Alors, quand on verra un cimetière, hop, on s'arrête, etc. Alors, j'ai fait des tas de clichés, des tas de films sur les cimetières et ils n'arrivaient pas à comprendre, ben, quand on rentre dans ce genre, dans ce domaine, ce lieu de repos. Ben, personnellement, moi je suis en osmose avec ceux qui y reposent, tout en espérant peut-être quelque part qu'ils soient certainement plus heureux que ce qu'on est là, hein, dans la vie actuelle. On l'espère tous. Vous avez vu ce Shensi, qui régulièrement brûle un cierge pour son père. On a cette façon de voir la mort différemment. On l'a accepté. On a une philosophie face à elle, on aime même la provoquer, en fait. Mais en même temps, il y a cette idée que quand on se promène à travers les tombes, ce n'est pas une façon de provoquer. Non, on est en osmose avec ceux qui y reposent, on est en osmose avec cette ambiance. Et puis, moi, personnellement, ce que j'aime bien imaginer également, c'est l'histoire de la personne. Un tombeau, plus il est ancien, plus je me pencherai dessus et j'essaierai d'imaginer ce que la personne a vécu avant d'être oubliée, avant qu'il ne reste plus que cette petite photo comme justement prend pour ses expositions de photographie. Elle utilise un appareil photo à l'ancienne et elle utilise les images de ceux qu'on dit les oubliés. Parce que ce sont des petites photos dans les petites avéoles, dans des tombes qui sont vouées à disparaître parce que la concession à perpétuité n'existait pas à l'époque. Alors vous avez des tombeaux de plus de presque 100 ans qui vont disparaître avec les personnes. Quand on pouvait intégrer une photographie, tout ça, ça va disparaître. Donc, moi personnellement, j'aime bien imaginer que la personne a vécu, comment ça s'est passé, comment c'est... Et je pense que toutes les personnes qui sont concernées, qui aiment ben, un peu se ressourcer, oserais-je dire, dans ce genre de domaine, je pense exactement comme moi. C'est dans ce but-là. On m'a déjà posé la question, oui, mais tu vas sur les tombes, pourquoi faire ? Les gens sont morts, tu vas pourquoi ? Pour provocation, pour... Non. J'aime bien, donc, selon le bâtiment, la chapelle qui me fait face, ben, il y a toute une construction, il y a toute une histoire. Il ne faut pas oublier qu'il y a des individus en dessous et qui ont écrit très certainement une partie de l'histoire. Je vous passerai bien sûr le cimetière du Père-Lachaise, dans lequel j'ai eu l'opportunité d'aller, lors d'un enterrement, notamment. Mais c'est bourré d'histoire. Pourquoi est-ce qu'il est visité? Justement, c'est un des sites les plus visités sur Paris. Pourquoi? Mais la plupart des personnes qui visitent, bon ben voilà, c'est des beaux tombants. Ben, j'ai vu Yves Montand ou alors Allan Kardec, pour ne citer que lui, puisque c'est la tombe la plus visitée, entre guillemets, hein, parce que s'il déroule toujours des petites séquences nocturnes. Mais c'est pas seulement ça. Il faut penser à l'histoire en général. Bon, là, je ne suis pas là pour vous faire un cours, mais plutôt une conférence. Donc, déjà en premier lieu, je voulais vous demander, vous, comment vous vous situez par rapport... Moi, ça me fait bizarre d'être assise, en fait. C'est... Oui, tu t'assois peut-être, mais moi je vais, je sais pas, j'ai l'habitude peut-être de... Et, bon, l'explication, bon, vous l'avez vu, cette mouvance. Bon, je pense que vous êtes ici, vous le comprenez très bien. Vous avez les yeux ouverts sur cette mouvance, sur ces univers, sur cet art de vivre, qui est différent de ce qu'un autre public viendrait ici. Hein, je pense que vous avez tous un vécu, comme je le ressens, vous avez tous un petit quelque chose qui vous permet d'entrer en communication, si je peux dire, avec ces univers-là, donc vous les comprendrez. Vous n'êtes pas béotien ni néophyte, je pense, hein, tous. Voilà. Donc on définit souvent le mouvement gothique déjà qui serait né du cinéma, il se serait inspiré du cinéma allemand, l'expressionnisme. Hein. Je pense que vous avez dû voir déjà des vieux films comme Metropolis ou alors Nosferatu, simplement Nosferatu, qui est un chef-d'œuvre au niveau de l'expressionnisme allemand. Donc, c'est à partir des années 80 que René de ses cendres, un peu le phénomène gothique après le punk et tous ses dérivés, puisque bon, on reste toujours au niveau musical, bien sûr. Comment je pourrais dire, l'électro-indu, tout ce qui est Depeche Mode, tout ce qui est Das Ish, Six New Season, The Banshees, Cure, Bauhaus, tout ça, on a vu. Ce sont les piliers de la musique. C'est ce qui a fait également comprendre dans ces années-là également à un autre public qu'il y avait quelque chose à exploiter au niveau financier également. Ils en ont parlé. Pour l'instant, bon, peut-être pas pour longtemps, la mouvance gothique est encore hors de l'exploitation financière. Mais pas pour longtemps, parce que je peux vous dire que sur les réseaux, etc., bon, on a pris le filon et on l'exploite. Bon.
Il est vrai que ça devient ce qu'on appellerait maintenant un lobbying.
Oui. Hein,
voilà.
Oui.
Le fait du cybergoth, maintenant, ça devient un lobbying. Ils le disent bien. Ils disent bien que maintenant... On veut se faire de l'argent en faisant des soirées bien spécifiques. Ce qu'il faut savoir, je voudrais revenir un peu à ce que disait... Et par rapport au film, ils disent bien que ça vient des pays anglo-saxons, ça va après vers l'Allemagne. C'est pas tout à fait juste, ça vient de l'Allemagne, après justement la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, etc., parce qu'il y a une grosse imprégnation. C'est vraiment imprégné de cette culture hitlérienne, ce que les fascistes. C'est remonté dans les pays nordiques et c'est venu aux pays anglo-saxons qui, ces anglo-saxons, ont été plus rapides pour nous inculquer.